Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
La colline de Tianzou, au Nord Kivu, est passée sous contrôle des FARDC à l'issue des violents combats contre les rebelles M23 la nuit dernière. Adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a signé ce vendredi 8 avril le traité à Nairobi au Kenya où se déroule la cérémonie officielle. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, c'est le professeur Jean-Marie Mwamba, directeur du Philosopha Edith Stein, un établissement d'enseignement supérieur privé catholique dans la province de la Tshopo. Il nous parlera des conférences débats qu'organise son institution dans le cadre de la 21e semaine philosophique de Kisangani. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Les FARDC ont réussi à reconquérir la colline de Tianzou la nuit dernière. Tianzou et Runyonyi sont deux collines stratégiques dans la région de Djomba, dans un triangle frontalier entre le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. L'armée vient de récupérer cette zone après des offensives lancées depuis mercredi matin en vue d'y déloger ces rebelles du M23 qui venaient d'occuper les milieux il y a deux semaines. Sifa Maguro.
D'après le porte-parole des opérations Sokola 2, la reconquête est déjà acquise et l'armée est en train de nettoyer toute la zone et poursuivre l'ennemi dans les profondeurs en vue de mettre fin à l'aventure du M23. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko fait le point de la situation dans la région de Tianzou et Sabinho, mais aussi il fait le constat du retour progressif de la population, notamment dans la partie de Bunagana.
La conquête de toutes ces collines est déjà là. Il est question maintenant de nettoyer toute la zone de manière à ce qu'on soit assuré que l'ennemi est dans notre zone de responsabilité. Depuis hier dans la soirée, l'ennemi était en débandage au niveau de Sabinho. Mais je vous dis que, bien que timide, le retour de la population à Bunagana, où nous sommes actuellement, nous avons constaté que la vie a repris et que la population est en train de vaquer librement. Enfin, non seulement
le lieutenant-colonel Njike Kaiko affirme que le coordonnateur des opérations et commandant de la troisième zone de défense séjourne dans la zone des opérations pour s'assurer de l'évolution de la situation. Goma, Sifa Maguro, Radio Okapi.
Restons dans la région du Nord Kivu, 6 morts et 12 blessés, dont 3 grièvement. C'est le bilan encore provisoire d'une explosion survenue dans un bistrot dans le camp militaire Katindo, non loin du parquet militaire dans la commune de Karisimbi. Les premières enquêtes menées sur la scène du crime, où le gouverneur de province ainsi que le commandant de la 34e région militaire y sont rendus dans la matinée, révèlent qu'il s'agirait d'une bombe artisanale, mais le doute plane encore sur l'auteur présumé du crime. Pour en parler, retrouvons à Goma Gabriel Wamenya.
Les familles des militaires touchés par ces drames étaient inconsolables dans la matinée de ce vendredi après l'explosion hier soir d'une bombe artisanale supposée qui a fait 6 morts et 12 blessés. L'aiguille de l'explosif ramassée sur les lieux du drame en font foi ont affirmé quelques officiers des FARDC trouvés sur place. Dans les camps militaires Katindo, on pouvait lire sans désemparer sur les visages des familles des militaires massés sur les lieux du drame la désolation, l'émotion mêlée à la psychose. Selon les sources militaires, parmi les victimes de cette explosion, il y a un officier supérieur des FARDC. Les sources militaires du camp Katindo n'excluent pas un acte terroriste. Ce matin, l'air était au ramassage des restes des corps déchiquetés des victimes éparpillés par-ci par-là sur les toitures des maisons voisines au même moment où d'autres militaires s'employaient à rassembler les douilles de l'explosion semblables à des billes et aux particules de métaux. Notons que la police scientifique de la UNESCO ainsi que l'auditorat militaire des garnisons de Goma diligente actuellement des enquêtes sur les lieux du drame afin de déterminer la nature exacte de l'explosion. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Écoutons à présent le gouverneur de la province de Nord Kivu qui était descendu sur le lieu de l'incident. Le lieutenant-général Constant Dima appelle la population à ne pas céder à la panique et lui rassure que les enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les circonstances et la nature de cette explosion qui a fait des victimes. Le lieutenant-général Constant Dima dans cet extrait recueilli par Sifa Maguru.
Je présente mes condoléances les plus sincères donc à la famille
et à tous les commandants des unités touchées par ce drame. Tout de suite là, l'endroit scellé pour permettre la police scientifique de descendre pour qu'on sache exactement il s'agit de quel engin. Mais à ma première vue sur les lieux, en vue des impacts et de défragation, je trouve que ça doit être un engin explosif, improvisé, que seuls les scientifiques vont nous déterminer donc cet engin. Pour l'instant, c'est 6 morts et parmi lesquels nous déplorons aussi des officiers supérieurs. Nous avons un lieutenant-colonel, un capitaine, 3 femmes et un enfant. Nous sommes dans la province où nous faisons face aux djihadistes, nous faisons face donc au terrorisme. Et la population ne cède pas à cette erreur-là. Les enquêtes sont en cours pour déterminer exactement il s'agit de quoi.
Autre nouvelle au sud Kivu, 24 personnes tuées, 27 maisons attaquées par des bandits armés et 11 cas d'enlèvement en mars dernier. Ces statistiques proviennent du rapport sécuritaire mensuel publié ce jeudi 7 avril par la synergie des associations des jeunes pour l'éducation civique, électorale et la promotion des droits de l'homme, SAGESEC Sud Kivu. Jean-Baptiste Tonga, cette organisation, note cependant que la province du Sud Kivu reste confrontée à une sécurité grandissante et permanente.
Les enlèvements et les braquages des véhicules ont marqué le mois de mars écoulé. Bien que le nombre de personnes tuées dans le Sud Kivu a baissé par rapport au mois de février où on a enregistré 51 cas, dans ce registre de tueries, c'est le territoire d'Uvira qui est en première position avec 6 personnes tuées, suivi du territoire de Mwenga qui compte 5 assassinés. Autre fait inquiétant, le nombre de braquages de véhicules est également en hausse. En effet, 23 véhicules ont été braqués contre 12 en février, 11 personnes enlevées contre 20 au mois de février. SAGESEC relève par contre une augmentation des maisons attaquées. 27 maisons ont fait l'objet d'attaques des bandits armés contre 23 en février. Enfin, l'organisation SAGESEC a répertorié 3 personnes tuées par vindicte populaire. La SAGESEC estime qu'il est grand temps que les autorités investissent de moyens suffisants dans ce secteur de la sécurité afin que la population retrouve le bien-être et la stabilité. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
En Ituri, plus de 10 000 personnes qui avaient fui il y a environ 6 mois les combats entre l'armée et la milice Codeco ont déjà regagné depuis le début de cette semaine le centre commercial de Kobu et de Lipri dans les territoires de Djougou. Selon le chef de secteur de Walendu Dachi, une accalmie s'observe depuis quelques mois dans la zone où il y a forte présence des FRDC. Cependant, la plupart de ces retournés n'ont pas d'abri qui ont été saccagés ou incendiés pendant les combats. Les activités économiques Zachary Moyope et les écoles n'ont pas encore repris.
Les centres commerciaux de Kobu, situés à 45 km au nord de Bunia, qui hébergeaient plus de 20 000 personnes, étaient quasi déserts après les opérations militaires vers octobre 2021 pour déloger les miliciens de la Codeco dans la région. Toute la population avait fui dans les localités proches et à Bunia. D'autres ont trouvé refuge dans la brousse où ils avaient construit des maisons de fortune. 6 mois après, le calme est revenu, affirme le chef de secteur de Walendu Dzatsi. Claude Matesso précise que presque la moitié des habitants ont regagné les milieux, mais toutes leurs maisons ont été détruites. Certains ont érigé des tentes, d'autres dorment dans des édifices d'église ou à la Belle Étoile. Même décor dans la localité de Lipri, environ 20 km au nord de Bunia. Les magasins et boutiques et les écoles n'ont pas encore repris. Les habitants s'adonnent uniquement aux travaux des champs. Les marchés sont très timides, on y trouve des vivres et certains produits de première nécessité. Les chefs des secteurs des Dzatsi sollicitent l'intervention du gouvernement et des humanitaires en faveur de ces personnes sinistrées. Claude Matesso.
Maintenant, avec l'armée, tout se passe bien. Chaque personne a regagné sa parcelle. Mais à la Belle Étoile, tout a commencé de zéro. Notre activité même, ça peut être le reste, hein. L'assistance des humanitaires.
Les autorités coutumières et les notables continuent de sensibiliser d'autres habitants retournés dans ces entités. Bunia, Isaac Moyope, Radio Okapi.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de signer ce vendredi 8 avril le traité de l'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est lors d'un sommet extraordinaire à Nairobi au Kenya. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des chefs d'État de cette communauté. D'autres détails avec vous, Pierrot et la Mégie.
C'est lors du sommet du 29 mars dernier que le chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est avait admis officiellement la RDC comme membre à part entière de la communauté et le président Uhuru Kenyatta avait été désigné pour accueillir la cérémonie des signatures du traité de cette adhésion. D'après le communiqué rendu public par la communauté, le sommet du 29 mars avait appelé à une intégration économique, politique, sociale et culturelle plus profonde en vue d'améliorer la qualité de vie des gens de la communauté par une compétitivité accrue, une production avancée. Valeur ajoutée, des échanges et des investissements pour une reprise économique durable. Un appel relayé par le président ougandais Yoweri Museveni ce vendredi à Nairobi, où il a insisté également sur les valeurs communes à la communauté ainsi que la sécurité. Avec la cérémonie de ce jour, la RDC rejoint dans cette communauté le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda. Notons qu'avant l'adhésion de la RDC, la région de l'Afrique de l'Est couvrait une superficie de 1,8 million de kilomètres carrés avec une population de 132 millions d'habitants.
Ici au pays, les députés nationaux ont voté hier jeudi 4 projets de loi de ratification et ont envoyé 2 autres à la commission mixte PAJ-ECOFIN et Défense et Sécurité. Il s'agit notamment de la convention entre la Belgique et la RDC sur le transfèrement des personnes condamnées, la convention d'entraide judiciaire entre les deux pays, l'accord relatif au financement à la construction et à l'exploitation du pont route-rail sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa. Les députés nationaux continuent à conditionner la construction du pont route-rail par la finalisation des travaux de construction du port en eau profonde de Banana. Michel Kifindangoy.
Adopté séance tenante, l'accord d'admission de la RDC au groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, les deux conventions avec la Belgique et le projet de construction du pont route-rail ont le plus retenu l'attention des députés. Emery Okundji.
Avant de jeter ce pont route-rail entre le Congo-Brazzaville et Kinshasa, il faut traiter en armes égales comme nos pays frères. Construisons d'abord notre port en eau profonde.
Pour le ministre du plan, le port en eau profonde de Banana sera opérationnel avant la fin des travaux du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville. Christian Mwando.
Le port en eau profonde de Banana prendra 3 ans pour sa construction par phase, tandis que le pont route-rail Kinshasa-Brazza est prévu pour 5 ans avec démarrage probable en 2023. Le pont en eau profonde de Banana devrait prendre fin en 2025 alors que le pont route-rail devrait prendre fin en 2028.
Notez que le projet de loi de lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que celui relatif au contrôle des établissements de crédit, ont été envoyés à la commission mixte PAJ-ECOFIN Défense et Sécurité pour un examen approfondi.
Autre nouvelle, dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, le prix de sac du ciment a excessivement augmenté ces derniers temps. Il est passé progressivement de 23 à 25 000, 26 000 et se négocie aujourd'hui entre 30 voire 32 000 francs congolais. Cette situation n'arrange pas les gens qui sont en pleine construction des maisons actuellement ou qui effectuent d'autres travaux à base du ciment. Du côté des commerçants, Irène Mboma, cette hausse de prix du ciment à Bandundu est consécutive à la situation à Kinshasa où ses prix a aussi galopé.
C'est depuis quelques jours que cette hausse des prix du ciment est observée sur le marché de la ville de Bandundu. Un sac de ciment est passé progressivement de 23 ou 25 000 francs congolais à 30 ou 32 000 francs congolais. Devant une telle situation, certaines personnes qui construisent des maisons pour le moment venues pour acheter le ciment se retrouvent en difficulté. En l'occurrence de M. Amizaki, ne sachant à quel sein se vouer, s'est exprimé en ces mots.
Je suis vraiment surpris. Le prix des ciments a galopé tel que je suis venu là pour acheter 30 sacs, mais il n'y a pas possibilité d'avoir 30 sacs. Je suis en train de descendre pour 20 sacs. Où allons-nous avec ces pays et comment allons-nous construire? Cette situation nous met mal dans l'embarras. Nous ne savons que faire.
Une hausse des prix difficile à vivre aussi pour les commerçants, souvent obligés de se justifier devant les clients mécontents.
On vendait d'abord le ciment à 23 000 francs, mais ça devient maintenant à 30 000 francs, voire même 32 000. C'est à partir de Kinshasa qu'on a augmenté les prix et nous aussi, nous avons augmenté les prix pour avoir aussi l'intérêt. Le ciment par rapport au transport est devenu cher.
Il s'est de noter que les commerçants du ciment ainsi que ceux qui achètent demandent aux autorités au niveau national de revoir cet état des choses afin de leur rendre la tâche facile. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Cela fait un an, jour pour jour, depuis qu'Olivier Dubois a été enlevé et qu'il est retenu en otage au Mali. Ce journaliste français était en reportage à Gao, dans le Nord, lorsqu'il a été kidnappé le 8 avril 2021. Le mois suivant, il apparaissait dans une vidéo dans laquelle il expliquait lui-même être aux mains de Jin, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dirigé par Yad Haj Ghali et lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, le philosophe Edith Stein, un établissement d'enseignement supérieur privé catholique, organise du 4 au 8 avril des conférences débats dont le thème principal est intitulé « Le vivre ensemble aux prises avec des conflits sociaux, enjeux et perspectives ». Ces activités qui se déroulent dans la grande salle de la paroisse cathédrale Notre-Dame du train Saint-Rosaire s'inscrivent dans le cadre de la 21e semaine philosophique de Kisangani. Pour en savoir plus, nous en parlons avec notre invité dans cette édition du journal, le professeur Jean-Marie Mwamba, recteur de cette institution, s'entretient ici avec Jacques Moukokole. Suivez.
Professeur Jean-Marie Mwamba, recteur du philosophat Edith Stein, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Professeur, vous organisez une série de conférences dans le cadre de la semaine philosophique. Quelle est l'importance de la semaine philosophique ?
L'importance de la semaine philosophique, je peux le grouper en deux points. Le premier point, d'abord, c'est la visibilité de l'institution. Et le deuxième point, c'est juste une sorte d'apostolat, parce que nous sommes une institution catholique. Alors, le philosophat contribue aussi à l'évangélisation de la population à travers des activités comme la semaine philosophique, avec un thème d'actualité pour informer la population sur une réalité.
Le thème que vous avez choisi pour cette 21e édition, c'est le vivre ensemble aux prises avec les conflits sociaux, enjeux et perspectives. Comment pouvez-vous justifier ce choix?
Oui, aujourd'hui le monde est caractérisé justement par des conflits. Alors, nous comme philosophes, nous avons pensé un peu d'essayer de réfléchir l'origine des conflits et d'où viennent les conflits, les causes et aussi les moyens, comment chercher à résoudre ces conflits, parce que justement quand il y a des conflits comme dans notre pays partout, ça bloque le développement de la population et de la nation.
Professeur Jean-Marie Mwamba, quels sont les objectifs que vous poursuivez?
Les objectifs, c'est que d'abord la population soit informée sur la réalité du conflit qui est inhérent à la nature humaine et justement, après cette prise de conscience, entamer des discussions et des moyens, surtout des dialogues, justement pour arriver à détecter les causes et aussi trouver des pistes de solutions à travers surtout le dialogue.
Donc vous pensez que ces activités peuvent avoir un impact dans la communauté?
Oui, nous pensons que ça peut avoir un impact sur la population en voyant d'abord comment les gens viennent pour participer aux assises et à travers les médias, parce que nous sommes aussi en direct à travers les médias, les gens nous suivent et il y aura des résolutions qui seront données et qui seront publiées dans les annales pour que la population et ceux qui ont les parcelles d'autorité puissent en servir pour essayer de trouver des pistes et solutions à des conflits qui est partout dans le monde entier.
Professeur, nos communautés vivent dans des conflits récurrents, notamment à l'est du pays où sévissent les conflits armés et ailleurs dans le pays. Aussi, certains conflits d'ordre social et économique, que devons-nous faire pour vivre vraiment en harmonie?
Oui, pour vivre en harmonie, s'il faut, hier nous avons écouté le professeur Alain Koumbatoul, il a passé de la culture de la paix, c'est-à-dire nous devons essayer de voir des moyens pour instaurer cette culture de la paix. Et l'affaire de la guerre chez nous au Congo, à l'Est et surtout à Ituri, c'est une réalité qui est complexe. Alors il faut sensibiliser toutes les forces vives et surtout arriver à connaître les causes qui sont endogènes, les causes qui sont aussi exogènes, afin de réunir toutes ces populations, les dirigeants, les chefs coutumiers, dans un dialogue reconstructif afin de trouver des pistes pistes de solutions pour l'instauration de la paix dans notre pays en général.
Les conflits datent de longtemps. Professeur Jean-Marie Mwamba, est-il possible de les éradiquer?
Non, les conflits peuvent partir de la nature humaine. C'est difficile d'éradiquer les conflits parce que c'est inhérent à la nature humaine. Mais on peut quand même essayer de vivre, de comment gérer ces conflits et avoir quand même une paix dans la société et promouvoir le développement. Une société sans conflit, c'est de l'utopie.
Alors, quel message avez-vous à adresser à la population?
Oui, nous invitons la population à venir participer. Il y aura aussi les résolutions, que les populations viennent participer, contribuer, donner aussi ce qu'ils pensent des problèmes de vivre ensemble et des conflits. C'est un problème qui nous concerne. Voilà, j'invite toute la population à venir participer massivement pour contribuer, donner leur point de vue sur le problème que nous vivons tous dans notre société.
Professeur Jean-Marie Mwamba, merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Dieudonné Nyangasa était à la mise en onde, coordonnée par Pierrot et la Meji, sous la supervision d'Alain Irung. Merci de nous avoir suivis.